Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, ce fait assez insolite concernant le contrôle technique des véhicules à Kinshasa. Les pneus d'un corbillard avec un corps à bord ont été dégonflés hier lundi par des agents de contrôle sur la route poids lourd à Limité. La scène a choqué plus d'un passant. Beaucoup plaident pour un traitement un peu différent de certains véhicules comme des ambulances ou des corbillards. L'actualité, c'est aussi cette alerte sanitaire au Nord Kivu. Près de 1000 décès liés au VIH-Sida enregistrés dans le seul territoire de Rutshuru en 2025. L'ONG Action pour la protection civile et le développement qui a mené l'enquête pointe du doigt une défaillance dans la prévention. Elle plaide pour une intensification de la sensibilisation et une prise en charge adéquate. L'attaque de l'aéroport international de Bamboka à Kisangani dimanche par des drones kamikazes, attaque que le gouvernement provincial de Latchopo attribue à l'armée rwandaise et ses alliés de l'FCM-23 a fait l'objet des échanges hier dans l'émission Dialogue entre Congolais. Dans ce journal, quelques réactions des intervenants. Bienvenue à cette édition du journal. Commençons d'abord par cette nouvelle. Les États-Unis imposent des sanctions aux forces de défense rwandaises et à 4 de leurs officiers supérieurs pour leur soutien opérationnel direct au M23 et ses alliés dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'un communiqué du gouvernement américain. Le communiqué précise que quelques jours seulement après la signature, le 4 décembre 2025 par le président Trump, de la déclaration conjointe historique des accords de Washington pour la paix et la prospérité avec le président congolais Tshisekedi et le président rwandais Kagame, des combattants du M23 soutenus par le Rwanda, se sont emparés de la ville d'Uvira en violation flagrante des accords de Washington. Le document note aussi que le M23, entité sanctionnée par les États-Unis et l'ONU, est responsable d'horribles violations de droits humains, notamment des exécutions sommaires et des violences contre des civils, y compris des femmes et des enfants. Ainsi, les États-Unis réaffirment leur soutien indéfectible à la paix et à la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que dans l'ensemble de la région, conclut l'État américain. Nous y reviendrons. Je le disais en titre, nous débutons donc ce journal avec ce fait assez insolite concernant le contrôle technique des véhicules à Kinshasa. Un corbillard avec un corps à son bord a été arrêté et ses pneus ont été dégonflés hier lundi par des agents de contrôle technique, expliquent des témoignages sur place. Les faits se sont déroulés précisément entre les arrêts TP et Iveco sur la route des poids lourds à Limité. Une foule de curieux très choqués est venue sur place découvrir le corbillard de marque Mercedes et les cercueils qui transportaient. Pour les personnes rencontrées sur le lieu, les pneus du corbillard ont été dégonflés par ses contrôleurs car ce véhicule n'avait pas de documents techniques. Entre-temps, le corps sans vie gisait toujours dans un cercueil dans le véhicule. Écoutez la réaction de ce passant qui était sur place et note pour la plupart que certains véhicules comme des ambulances, corbillards ou autres véhicules privés transportant des malades ne doivent pas subir de contrôle. Ils optent pour une formation de ces agents. Suivez ce témoignage recueilli par Lievin Bunga.
C'est ça le mi-bas, c'est à 10h11.
L'incident s'est produit entre 10h et 11h. Un corbillard transportant une dépouille a été la cible d'un contrôle routier. Alors que le conducteur tentait de poursuivre sa route, les agents de contrôle l'ont brusquement interpellé en faisant usage d'une herse, endommageant ainsi deux pneus du véhicule funéraire. Si la légitimité des contrôles de l'État n'est pas remise en cause, la vérification des documents de bord étant un droit régalien, la méthode employée ici choque par son manque de professionnalisme. Par respect pour le mort et la douleur des familles, un convoi funéraire ne devrait jamais faire l'objet d'une telle violence. En conséquence, nous demandons au ministère provincial des Transports de revoir urgentement la formation des agents déployés sur les grandes artères de la capitale.
Jusque-là, nous n'avons pas pu avoir des responsables du gouvernement provincial du transport de la ville de Kinshasa en vue d'avoir aussi leur réaction. L'actualité, c'est aussi cette alerte sanitaire au Nord Kivu. Près de 1000 décès liés au VIH au SIDA enregistrés dans le seul territoire de Rutshuru en 2025. L'organisation Action pour la protection civile et le développement qui a mené l'enquête pointe du doigt une défaillance majeure dans la prévention communautaire. L'organisation recommande aujourd'hui une intensification urgente de la sensibilisation et une prise en charge adéquate pour éviter une catastrophe plus grande encore cette année. Le point avec Rosalie Zawadi.
Selon les secrétaires exécutifs de l'organisation Action pour la protection civile et le développement, c'est le nombre élevé des cas de décès liés au VIH dans plusieurs aires de santé de Rutshuru qui a motivé ces monitorings. Innocent Ouissabé explique qu'en 7 mois, la courbe des décès liés au VIH a grimpé jusqu'à atteindre un niveau qui, je cite, fait peur.
Nos enquêtes menées dans les zones de santé de Rwanguba, Rutshuru, Binza, Bukombo et Birambizo ont révélé au moins 1000 cas de décès liés au VIH/SIDA entre février et août 2025. Les cons sont clairs, faible accès au dépistage, et nous avons aussi les violences sexuelles faites aux femmes et filles, et surtout dans un contexte de conflit armé. Et nous avons également coupure de certaines aides humanitaires, aggravant la vulnérabilité des malades.
Une nouvelle enquête réalisée la semaine dernière par cette organisation dans les aires de santé des Kako, Kalengera, Rubare et Ruseke montre que les méthodes de prévention restent un mystère pour les communautés locales, d'où cet appel à une action urgente pour sauver les vies dans cette zone. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Retour dans la capitale où la circulation des médicaments contrefaits ou de qualité douteuse inquiète sérieusement les autorités sanitaires, il faut le souligner. Selon le gouvernement provincial, ces produits seraient responsables d'une proportion alarmante de décès dans la capitale. Une situation qualifiée de grave qui met directement en danger la vie des milliers d'habitants et appelle à des mesures urgentes et aussi à la vigilance. Le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, explique au micro de Nancy Atambo.
La mesure, ça veut dire que vous savez qu'il y a une autorité de régulation qui est la COREP, qui est déjà en train d'y travailler. Déjà, nous, à notre niveau, envoyer des inspecteurs sur terrain pour dénicher les gens qui font ces réseaux-là. J'appelle les Quinoises et les Quinois à la vigilance face aux produits pharmaceutiques. Le produit pharmaceutique, ils doivent être rigoureux. De la même manière qu'ils choisissent leur médecin, ça doit être la même manière qu'ils doivent choisir des pharmacies qu'ils entrent pour s'en procurer des médicaments. Et puis, le médicament qui se vendent dans même des sols que nous voyons dans des pharmacies qui ne sont pas viables, qui puissent être beaucoup plus regardants, parce que accéder à un faux médicament, ça tue plus que même la maladie elle-même. Donc il faut avoir accès à des médicaments de bonne qualité pour qu'on puisse espérer guérir. Donc qu'ils puissent être vigilants et qu'ils dénoncent toute contrefaçon qu'ils auront à constater dans leur quartier, dans leur marché, dans leurs avenues, pour que ça puisse permettre à l'État de traquer tous ces réseaux-là.
Caritas Congo a décidé de redynamiser son réseau national à travers la RDC dans ce contexte de crise financière mondiale qui fragilise les organisations humanitaires. C'est dans cette optique qu'elle organise un atelier du 2 au 6 février à Kinshasa, formation axée sur le renforcement des capacités de ses 48 coordonnateurs diocésains. Selon son secrétaire exécutif, cette session vise à promouvoir l'éthique, la bonne gouvernance financière et un style de management amélioré au sein du réseau. Plus de détails avec Blaise Ndongala.
Dans ce contexte humanitaire particulier, marqué par des coupes budgétaires, Caritas Congo souhaite à tout prix résister et garantir la continuité de ses services dans tous les pays. Les chargés des communications de l'organisation présentent cet atelier comme une démarche de renforcement stratégique et transformationnel adaptée à une période de transition et de défis renouvelés. Il explique que cette formation explore de nouvelles approches basées sur les ressources locales, la mobilisation du capital social et un accompagnement communautaire renforcé.
Chaque échange que nous allons vivre doit être transformé en actions concrètes au service des populations que nous accompagnons.
Pour sa part, le secrétaire exécutif de Caritas Congo souligne que la durabilité des actions de l'organisation ne peut être garantie sans un leadership transformateur et orienté vers les résultats. L'abbé Edouard Makimba.
Cette mission s'inscrit pleinement dans la matérialisation du 5e axe de notre vision, consacré à la redynamisation du réseau national Caritas et au renforcement institutionnel de ses membres.
Ces prélats catholiques souhaitent par ailleurs façonner des leaders efficaces, capables d'anticiper les risques et de promouvoir une culture des responsabilités et des performances.
Au moins 580 agents et cadres de l'Inspection Générale des Finances, IGF, à l'École du Savoir, y bénéficient depuis hier lundi en effet d'une série de formations continues à l'École Nationale d'Administration ici à Kinshasa. Objectif de cette session de formation, non seulement renforcer leurs compétences, mais aussi leur inculquer un sens éthique renforcé dans l'exercice de leurs fonctions. Le directeur général de l'ENA assure pour sa part que cette formation entend consolider les capacités de l'IGF, considéré comme le chien de garde des deniers publics en République démocratique du Congo. Congo. Explication avec Blesh Ndani Kambala.
Cette session de plus de deux mois s'inscrit dans le cadre des formations continues destinées aux agents et cadres de l'État congolais. Elle portera sur plusieurs thématiques, notamment la connaissance du statut régissant les agents et fonctionnaires de services publics de l'État. Le chef des services de l'inspection générale des finances juge nécessaire ce type de formation pour améliorer la performance de l'administration publique. Christophe Bitassimoin.
Et après ici, vous irez encore à l'école nationale des finances. Ceux qui sont à l'école nationale des finances viendront aussi ici. Ici, pour suivre la même formation que vous, ça va désormais s'étaler comme ça sur toutes les années. Donc, c'est une condition sine qua non pour que l'inspection générale des finances puisse être cet organe qui porte l'espoir de tout un peuple sur lequel le gouvernement compte pour redresser les finances publiques du pays.
De son côté, le directeur général de l'École nationale d'administration s'est dit heureux de la confiance que lui accorde l'IGF. Il promet de garantir aux participants une formation de qualité au bénéfice du bon fonctionnement de l'État congolais. Tombola.
Au terme de cette formation, que les cadres qui auront suivi ces différents modules sont un peu plus motivés. Par ailleurs, ça va participer, nous n'en doutons pas, à renforcer la cohésion. C'est aussi un levier sur lequel, je suis convaincu, l'IGF chef de service s'appuie
dans la matérialisation de son plan stratégique.
L'ENA et l'IGF avaient signé en décembre dernier un protocole d'accord pour la mise en œuvre de cet exercice interne.
Direction le Kasaï oriental où plusieurs travaux de différents chantiers de construction et de modernisation de l'aéroport de Bipemba sont presque terminés, annonce vendredi dernier du commandant de cet aéroport au gouverneur de province lors d'une visite organisée par le gouvernement provincial. D'après le commandant de cet aéroport de Mbushimai, les travaux de modernisation prévus pour 24 mois sont allés jusqu'à la 6e année suite aux difficultés d'acheminement des matériels. Romain Chinyama signale cependant que quelques préalables restent à accomplir avant l'exploitation internationale de cet infrastructure aéroportuaire. Romain Chinyama, au micro d'Esther Dalafina.
La chaussée hermétique, on entend tarmac et les pistes. La piste était déjà refaite et est en utilisation depuis pratiquement déjà, je crois, 3-4 mois. Et jusque-là, donc il nous reste à installer maintenant les équipements d'aide à l'atterrissage, qu'on appelle les ILS, qui sont installés incessamment. Donc il y a certains préalables, n'est-ce pas, mais donc ils sont en train de s'y mettre. Mais que du moins pour se retrouvent dans PPCA 2 sont actuellement à ce stade, on dirait au-delà de 90%. La piste est faite, c'est vrai, mais il faudrait assez qu'on ait les instruments, n'est-ce pas, d'aide à l'atterrissage, instruments de landing system, qui sont des équipements automatiques qui aident les pilotes à se poser, même par mauvais temps, jusqu'au sol. Et c'est ce qui donne la sûreté, la sécurité, n'est-ce pas, de la navigation aérienne. Et on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de lancer les vols internationaux sans que tous ces préalables ne soient remplis. Nous sommes en travaux de finissage actuellement.
Province du Haut-Katanga à présent avec l'installation le week-end à Lubumbashi de la direction provinciale de la DRC Gold Trading SA, une entreprise du portefeuille de l'État congolais spécialisée dans la lutte contre la fraude et la contrebande dans la filière de l'or artisanal et à petite échelle. Dans un communiqué de presse, l'organisation de la société civile Kasmia qui œuvre dans les secteurs miniers considère que l'implantation de cette succursale dans le Haut-Katanga est une occasion pour le gouvernement de reprendre le contrôle d'un secteur longtemps marqué par l'informel. Dans plus de détails avec Paula Munanga.
L'organisation Kasmia GASBL considère que l'implantation de la direction provinciale de la DRC Gold Trading SA est un engagement affiché par le gouvernement à poursuivre son action d'appropriation de ses ressources naturelles. Cette organisation exhorte l'État congolais à clarifier et renforcer sa politique dans le secteur de l'or artisanal en mettant l'accent sur la traçabilité et la lutte contre la fraude, notamment aux postes frontaliers stratégiques comme Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya, Dilolo ou encore Kasenga. Malgré l'implantation de la DRC Gold SA dans le Haut-Katanga, Kasmia estime que les défis structurels demeurent majeurs. Elle décrit les conditions d'exploitation dangereuses de l'or, des pratiques illégales persistantes et une dégradation environnementale préoccupante. Le communiqué dénonce notamment la présence d'acheteurs étrangers sur les sites miniers, l'installation illégale d'unités d'extraction et de traitement ainsi que l'exploitation de l'or dans les périmètres appartenant à des entreprises telles que Kisenge Manga, Cominière ou encore Kibali Gold Mining. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu avec ce cri d'alarme du réseau pour les droits de l'homme face aux multiples abus attribués à certains groupes armés se réclamant des Wazalendo dans la ville de Butembo et ses environs. L'organisation basée dans la ville dénonce une série de graves violations de droits humains allant des arrestations et détentions arbitraires aux tracasseries illégales et violences contre des civils. Son coordonnateur, Muindo Owasivi Iniwa, appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour garantir le respect des droits humains. Il est au micro de Marcel Papimukeba.
Les réseaux constatent la délinquance de certains éléments wazalendu dans la vie de Butembo et Aviro, des abus et des violations des droits de l'homme, des cas de meurtre, des menaces de mort, des arrestations et détentions arbitraires, la création des barrières et taxes illégales, des cas de violences sexuelles, parfois des affrontements entre eux qui créent beaucoup de problèmes dans la communauté. Les réseaux regrettent aussi l'attitude de certains civils qui préfèrent saisir les groupes armés au détriment des instances judiciaires quand ils ont des différends, mais aussi les silences ou soit les lenteurs ou les retards des services de sécurité pour intervenir en cas de dérapage constaté pendant les agissements de certains éléments wazalendu. Recommande aux autorités étatiques d'instruire et former ses partenaires wazalendu sur les droits humains et les droits internationaux humanitaires. Aux populations civiles de cesser à saisir le wazalendu.
Nous n'avons pas pu obtenir jusque-là la réaction des autorités.
Actualité internationale.
Soudan du Sud, au moins 169 civils tués dans le nord. L'ONU appelle au calme. Des dizaines de civils ont été tués dimanche dans des violences qui ont éclaté dans le nord du Soudan du Sud, selon la mission de l'ONU sur place. Ces affrontements ont lieu à Abyei Nam, dans la zone administrative de Ruen, lorsque des jeunes hommes armés et non identifiés ont attaqué le siège du comté d'Abyei Nam, situé près de la frontière avec le Soudan, blessant 123 personnes. La MINUS note avec regret la disparition de dizaines de civils et de certains responsables locaux dans les combats. Ces dernières semaines, la violence est intensifiée dans le pays à la suite de l'échec d'un accord de partage de pouvoir entre les généraux rivaux Salva Kiir et Riek Machar.
L'invité.
L'aéroport international de Bamboka, Kisangani, a été de nouveau attaqué le dimanche 1er mars par des drones kamikazes chargés de sous-munitions. Dans un communiqué, le gouvernement provincial de la Tchopo attribue ses attaques à l'armée rwandaise et aux rebelles de l'AFC-M23. Cette actualité a fait l'objet des échanges entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. On les écoute au micro de Guy Maté.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Quelle est votre analyse de cette nouvelle attaque de l'aéroport international de Bamboka à Kisangani?
Bien, merci beaucoup. Il faut d'emblée, d'entrée des jeux, dire que nous sommes dans une guerre sauvage. Et une guerre sauvage, c'est une guerre sans règles, où on dirige les drones vers des objectifs civils. L'aéroport de Bamboka, et d'ailleurs le gouverneur l'a précisé, c'était au moment où, n'est-ce pas, la compagnie CAA s'apprêtait, n'est-ce pas, à atterrir. Évidemment, on sait dire que peut-être que ces drones visaient, n'est-ce pas, l'atterrissage de l'avion CAA. Et vite, ça m'a fait penser à un cas qui s'est produit pratiquement ici en République démocratique du Congo, au moment de l'attaque, n'est-ce pas, encore d'une rébellion pro-rwandaise, qui avait causé d'ailleurs mort d'homme à l'occasion. Ils avaient visé pratiquement un avion qui atterrissait. Donc, on est en train de voir les choses revenir. Ce sont les mêmes stratégies, la manière de tuer, la manière de faire. Tout ça relève de ce que j'appelle une guerre sauvage, parce que une guerre moderne, c'est une guerre qui est régulée. Il y a des lois pour faire la guerre, il y a des lois. On ne peut pas viser des objectifs civils, par exemple, des écoles, des civils, des objectifs civils. Une autre lecture nous montre que, depuis un certain temps, le rapport de force sur le terrain semble jouer en défaveur, n'est-ce pas, du M23 AFC. Et en désespoir de cause, ils sont en train de viser, n'est-ce pas, les objectifs civils, peut-être question de faire mal. Mais je crois que tout cela démontre assez suffisamment qu'on a perdu la raison, les objectifs de cette guerre, et on a déliré un tout petit peu. Je crois qu'il faut se ressaisir et faire la guerre dans les normes et avoir des objectifs un peu plus nobles dans cette guerre. Nous sommes en état moderne, nous ne sommes pas à une époque du Moyen-Âge.
Alphonse Baindo, vous êtes professeur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani Unikis. On se rappelle les condamnations qui ont suivi les premières attaques de cet aéroport. Certaines institutions, notamment l'Union africaine, avaient condamné avec la plus grande fermeté ces attaques. À votre avis, pourquoi ces condamnations n'ont pas suffi pour dissuader l'AFC-M23 et les Rwandais?
Bon, alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, c'est que entre-temps, il y a eu des incidents graves. Et parmi ces incidents, il y a d'abord la mort d'un des leaders de l'AFC-M23, en l'occurrence Willy Ngoma, et qui a été abattu par une attaque de drone, qui est imputé au FARDC. Et ce n'est pas le premier cadre important de ce mouvement à être abattu par des drones qui sont donc attribués au FARDC. Alors, pour le Rwanda, il faut faire quelque chose. Parce que si le Rwanda ne fait rien pour les gens qui les suivent dans ces aventures en RDC, ça pourrait décourager les gens à rejoindre le Rwanda aujourd'hui et demain dans ces aventures en RDC, puisqu'ils verraient qu'ils ne sont pas super protégés quand ils sont avec le Rwanda. Et il faut craindre que ça ne soit que le début. Le Rwanda pourrait être tenté de faire vraiment quelque chose de très fort, parce que pour eux, il s'agit d'un leadership de Kagame pour montrer que ceux qui sont avec moi sont protégés. Deuxièmement, il y a une autre raison qui me semble fondamentale, c'est qu'en ce moment, toute la communauté internationale est préoccupée par ce qui se passe au Moyen-Orient avec la guerre qui est entachée là-bas. Tout le monde est concentré là-bas. Donc, on peut reprendre les attaques sur Kisangani et il y aura une distraction et les gens ne vont pas suivre. On va oublier Kisangani, c'est rien sur l'échiquier mondial quand on regarde les enjeux qu'il y a de l'autre côté.
Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Les recours aux drones changent la manière de combattre dans cette guerre. Qu'est-ce qu'on peut redouter dans les jours à venir si cette escalade ne prend pas fin, professeur Bob Kabamba?
Ben, c'est assez simple, au fait. Hein. L'escalade ne va pas prendre fin dans le contexte dans lequel nous nous retrouvons. C'est-à-dire que toutes les tentatives de résolution échouées doivent, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est le M23 qui est représenté avec l'AFC qui sont représentés aussi bien militairement que politiquement. On connaît les résultats. Washington, nous connaissons les résultats. Luanda, on connaît les résultats. Lomé, on connaît les résultats. Et donc, il reste juste une chose, c'est-à-dire, comme on le sait, c'est l'option militaire. Et l'option militaire dans l'objectif de pouvoir arriver à inverser les rapports de force. Malheureusement, dans cette stratégie-là, c'est la population civile qui est victime, parce qu'on n'a pas toujours la visibilité sur tout ce qui est en train de se passer dans toute une série de zones de conflit, mais c'est la population qui est la première victime. Donc malheureusement, dans le contexte actuel, on voit bien que ça va être encore l'option militaire qui va être très privilégiée dans l'objectif de pouvoir faire inverser les rapports de force sur le terrain.
Vous pouvez continuer à suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi, notamment YouTube, X et Facebook. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par Lievin Mwinga, mis en onde par Dudoné et Nyangasa. À toutes et à tous, merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.